Mata. Charged down by Cafu. In towards Gerrard! Hello! Hello! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan minds and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans inside the stadium.
About Football in French, saison 1, épisode 6. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission sur le football anglais. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes que vous avez déjà commencé à avoir l'habitude de connaître, à savoir Landry Poun, supporter de Chelsea. Landry, comment vas-tu?
Très bien, Faisal. C'est toujours un plaisir d'être là.
Plaisir partagé, Landry. Et à ses côtés, le supporter d'Arsenal qui est très, très heureux depuis quelques semaines, là, Arsène. Arsène, comment vas-tu?
Mais je ne comprends pas pourquoi Landry est si heureux. Ça m'étonne.
Ça t'étonne pourquoi, Arsène?
Non, mais Chelsea, ce n'est pas encore ça depuis le début du championnat. Non,
j'ai de belles raisons.
On aura le temps de discuter, d'analyser comme on peut, les gars. Déjà, je vous propose tout de suite de poser les jalons de l'émission et de présenter à nos auditeurs un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire une analyse, nous essayons de faire une analyse, même si elle n'est pas très tactique, technique, du match d'hier, du premier grand choc de la saison de première ligue entre Chelsea et Liverpool. Chelsea avec son recrutement XXL face au champion titre. C'était un match qui était très attendu. On voulait savoir les états des formes des uns et des autres. On voulait savoir si Chelsea allait pouvoir concurrencer Liverpool. On voulait savoir où en était Liverpool, parce que ce qu'ils nous ont montré sur les premiers matchs de la saison et de la prépa n'était pas bon. On a eu droit à un, pour moi, très beau match. Après, on aura le temps d'en parler. Je ne sais pas si c'était pareil. Mais pour moi, c'était un beau match de football. Donc, on essaiera de parler un peu de ce match, des joueurs qui vous ont marqué, etc. Puis, dans la deuxième partie, on aura un petit focus sur le début de saison de deux clubs, c'est-à-dire le club d'Everton et celui de Crystal Palace qui sont aujourd'hui en tête, même si ce n'est que deux journées. C'est quand même 6 points pris et de la qualité montrée, que ce soit dans les jeux, dans la tactique, dans le leadership. Et nous allons finir avec un enseignement des deux premières journées de Premier League au top. Les amis, ça vous va?
C'est parfait.
Ok, alors on part sur la partie 1, analyse du match Chelsea-Liverpool. Alors, les gars, premièrement, on va dire que voilà, les Reds ont battu Chelsea 2-0, un doublé de Sadio Mané. Première question que j'ai envie de vous poser simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match dans sa globalité? Nous n'allons pas encore rentrer dans les détails parce que dans les détails, je pense qu'il vaut mieux aller par période, c'est-à-dire première mi-temps et ensuite la deuxième. Mais déjà, globalement, quand vous ressortez de ce match, qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'était un match plaisant dans l'ensemble. C'était très beau à regarder. Il y a eu du spectacle, il y a eu de l'engagement par moment. Et pour un deuxième match de la saison, c'était très plaisant à regarder.
D'accord. Arsène, tu en penses quoi, toi, globalement du match?
Je pense qu'au début, les deux équipes essayaient de se jauger. Et Liverpool est revenu meilleur en début de seconde mi-temps. Si c'était un match plaisant pour un début de saison, oui, pas mal. Après, c'est quelque chose à quoi je m'attendais parfaitement, vu que Chelsea n'est pas très en forme depuis le début de saison, selon moi. Donc globalement, rien de nouveau, c'est quelque chose à quoi je m'attendais.
D'accord, les gars. Donc, Allons dans le vif du sujet. Essayons de parler déjà de la première période. Moi, pour vous, je vais essayer de vous présenter un peu comment moi j'ai vu la première période. On a d'abord un début de match où globalement, on va dire Liverpool a la possession, mais sans en faire quelque chose d'extrêmement vif, d'extrêmement prononcé. les Reds ont la possession, sont dans le camp de Chelsea, dominent territorialement, mais ont du mal à se créer de réelles occasions. Quand Chelsea accepte un tout petit peu de laisser légèrement la possession et de procéder rapidement par contre avec Timo Werner ou avec Havertz une ou deux fois qui s'est mis dans le dos de Van Dijk. Et on a deux équipes qui tactiquement sont au point. En tant que supporter de Liverpool, ça m'a surtout fait plaisir de revoir le Liverpool des grands soirs. Parce que quand tu suis Liverpool, tu es supporter, il y a Liverpool des week-ends où des fois on gagne 3-0, les gens se disent Liverpool était exceptionnel, mais nous qui avons regardé le match, on sait que voilà, les gars, ils ont juste fait le minimum parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus de l'équipe adverse. Mais on a eu le Liverpool, voilà, moi je trouve que c'est le Liverpool des grands soirs, c'est-à-dire les joueurs étaient vraiment, j'ai senti que Klopp, il tenait à cette victoire. Ils étaient concentrés, les passes étaient claquées, il n'y avait pas d'erreur technique dès le début du match. Et quand Liverpool commence comme ça, tu sens que ça va être un grand match. Donc, première période, moi j'ai envie de dire, voilà, ça s'est jaugé des deux côtés, le ballon était à Liverpool. Quelques situations pour Liverpool. Une, je vais dire, moi j'ai retenu, bon, on va dire, j'ai retenu deux. La deuxième, elle était hors jeu pour Werner. Et la première, c'est celle de Werner où il part en profondeur et bon, Van Dijk là, et je dis en profondeur, Fabinho l'arrête. Donc voilà déjà globalement ce que moi je pense sur cette première période. Qu'est-ce que vous en avez pensé juste de la première période?
Pour moi, je pense que, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, les deux équipes se sont jaugées en première période. Beaucoup d'attention de la part des deux équipes. Mais Liverpool, voilà, a dominé amplement cette première période. Et du côté de Chelsea, à part Werner, qui essayait de faire des courses, mais sans plus, parce que Fabinho était vraiment très excellent sur cette première période, surtout le match d'ailleurs. Il a été très excellent. Moi, il m'a carrément étonné parce qu'en défense centrale, je pense, ça fait longtemps qu'on l'a vu en défense centrale.
Il avait joué en défense centrale l'année dernière, en 2019, lors du je crois que c'était le 8e final, si je ne me trompe pas, ou les quarts. Justement, c'était à cause de blessures de Lovren.
Il était à Monaco.
Oui, même à Monaco, il était utilisé en arrière droit, si je me rappelle bien. Il n'était pas vraiment utilisé en défense centrale. Mais il avait fait un très beau match, je me rappelle, contre le Bayern en 2019, l'année dernière, quart de finale, Liverpool-Bayern. Et il prend Lewandowski en field et Lewandowski ne voit pas le jeu. Donc, bon, on avait déjà une idée de ce qu'il pouvait faire en défense centrale. Bon, tu peux continuer.
Et donc voilà, pour moi, c'est l'un des hommes, enfin, je pense que c'est l'homme de la première mi-temps, c'est lui qui garde, qui n'a pas permis à Werner de mettre un, voire peut-être deux buts. Mmh. Et voilà, à part ça, sur la première mi-temps, c'est tout pour moi, oui.
Mmh. Landry, tu en penses quoi, cette première période?
Alors moi, je retiens beaucoup plus que Werner. Si tu veux te limiter à juger les équipes sur la capacité offensive dans ce match-là, sur cette première période-là. Tu vas rater derrière une défense qui est organisée côté Chelsea. Tu vas rater un milieu de terrain qui se cherche encore, mais qui a eu deux ou trois fois l'habileté d'aller trouver l'attaquant. Moi, sur cette première période, je trouve deux équipes qui ont respecté les tactiques des coachs. Tactiquement, c'était très correct. Il n'y avait rien qui débordait, il n'y avait pas de mauvais gestes, il n'y avait pas d'erreur de concentration. Jusqu'au carton rouge, il n'y avait pas d'erreur de concentration ou d'analyse du match. Tout le monde avait une vision globale de là où il était. Tout le monde arrivait à savoir ce qu'il allait faire deux, trois coups à l'avance. Et c'est très plaisant à regarder parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder en vue aérienne le déplacement des équipes. Ils étaient très alignés. Et c'était comme un ballet qu'ils étaient en train de réciter. Ce n'était pas non plus le football raffiné, champagne, mais c'était tactiquement correct et c'était plaisant à regarder.
D'accord.
Donc, justement, ce que je disais, cette faute de Christensen. Qui pour moi, puisque ça fait partie de la première mi-temps, qui pour moi n'a pas lieu d'être à ce moment-là, parce qu'il lui de jeter un coup d'œil sur la position de son gardien pour se rendre compte que cette faute-là, il n'avait pas vraiment à la commettre.
Après, je ne suis pas sûr sur cette faute que Mané ne prend pas le ballon avant. Je ne sais pas. quand je vois la course de Mané et le moment d'impact avec Kepa, je me dis que si Christensen le garde pas, j'ai l'idée, il y aura peut-être collision entre Mané et puis Kepa, et ça aurait été rouge pour Kepa aussi. Donc je sais pas. Je me dis Christensen, voilà, comme les trolleurs de Twitter ont dit, il a vu Kepa dans les buts, il a dit le goal, donc je dois arrêter l'attaquant.
Après, je pense qu'un rouge de Kepa, aurait été préférable qu'un rouge de Christensen sur ce match.
Oui, alors, vu comment le match s'est déroulé par la suite.
D'accord. Ok, les gars. Donc, je vois un peu ce que vous pensez de cette première période. Les gars, faisons maintenant un premier focus sur un joueur en particulier dont Arsène vient de parler, qui est Fabinho. En 2019, il fait un quart de finale ou un huitième finale, je ne sais plus, contre le Bayern. Il arrête Lewandowski quasiment tout le match en vie. En 2020, il fait un match à Stamford Bridge. Il arrête quasiment à lui seul Werner. Est-ce qu'il ne va pas commencer à taper à la porte pour vous dans l'esprit de Klopp, ou peut-être, sait-on jamais, dû avec Van Dijk derrière?
Pour moi, pourquoi pas? Parce qu'ils se sont quand même renforcés au milieu avec l'arrivée de Thiago. Si éventuellement Wijnaldum ne part pas, je pense que c'est envisageable parce que pour moi, tu connais ma position sur Joe Gomez.
Oui, je connais.
Je ne pense pas qu'il soit au niveau de ce Liverpool-là. Donc, je pense que quand même, ça serait pas mal de l'utiliser en défense centrale quand ça sera possible, quand ça sera nécessaire. Je pense qu'il sera même très utile, plus utile que Joe Gomez. Donc, je pense que oui. Avec les renforcements qui ont eu lieu au milieu, je pense que ça serait une bonne idée, oui.
D'accord. Landry, tu en penses quoi?
Forcément, Fabinho en défense centrale avec Van Dijk, c'est déjà beaucoup plus intéressant, comme le dit Arsène, que Joe Gomez.
C'est la meilleure doublure dont Liverpool dispose aujourd'hui pour faire la paire avec Van Dijk. Parce qu'il arrive quand même à rassurer un peu son coéquipier en défense. Il lui garantit une certaine tranquillité d'esprit, je vais dire. Dans le sens où Virgil n'a pas constamment regardé par-dessus son épaule pour s'assurer que tout va bien derrière. Je pense qu'en termes de stratégie, en termes d'hommes même, Klopp gagnerait à garder cette paire-là aussi longtemps que ce milieu qu'il a aligné hier fonctionnera.
Bon, ok, je vois vos avis, mais les gars, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Moi, je pense que déjà, vous sous-cotez Joe Gomez parce que, en tant que supporter de Liverpool, il y a eu beaucoup de matchs l'année dernière où, voilà, je me rappelle un match qu'on va jouer à Burnley où Van Dijk n'est pas exceptionnel. Van Dijk se fait dominer de part. Van Dijk n'est pas bon, il est moyen. Et Joe Gomez porte la défense. Je trouve que un joueur qui est mis par Klopp titulaire, c'est forcément qu'il a quelque chose. Il a pour lui cette rapidité, on ne peut pas lui enlever ça, qui fait qu'il est défenseur central de Liverpool, parce que pour jouer défenseur central, il faut être rapide, parce qu'on joue très haut aujourd'hui. Donc, il a pour lui ça. Il est quasiment titulaire en équipe nationale, maintenant, quasiment tout le temps avec Harry Maguire à ses côtés, c'est la défense centrale en Angleterre. Je trouve qu'un joueur qui est défenseur central en Angleterre, défenseur central du championnat en Angleterre, ne peut pas être mauvais. Donc, ne sous-estimer jusqu'à dire que, voilà, Fabinho va directement remplacer. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. De ce que moi, j'ai appris, de ce que James Pearce, le proche du club, a dit, quand Lovren est parti cet été, il manquait un quatrième défenseur parce qu'on a Van Dijk, Gomez, Matip et Lovren. Lovren est parti, nous manquait un quatrième. Et Klopp a dit, étant donné que l'année dernière, Fabinho a déjà eu à jouer en défense centrale, il a dit non, on n'achètera pas de quatrième défenseur. On mettra Fabinho au cas où il y aura un manque derrière. Donc moi, je ne pense pas que son idée, comme il a même réaffirmé, je ne sais plus qui lui a posé la question hier, mais il a dit non, c'était juste pour ce match que Joe Gomez a accentué juste une légère douleur à l'échauffement. Donc, je pense que ce n'est pas dans son idée d'installer Fabinho derrière. Je pense que son idée principale, c'est voilà, tu continues avec la défense qui t'a fait quasiment, qui t'a fait champion d'Angleterre avec quasiment 200 points. Et voilà, tu continues avec cette défense-là et tu utilises Fabinho au cas où il y a eu un problème derrière. Et le problème, c'est qu'en fait, le truc qui n'est pas bien, c'est quand on dit que Fabinho peut remplacer Van Dijk, je dis qu'en fait, Fabinho peut remplacer Gomez, c'est que toute la structure du jeu de Liverpool est posé sur Fabinho. Ben, je sais que Thiago Alcântara pourra jouer ce rôle, mais les sorties de balle, quand Fabien vient prendre et prendre tête et commence ses cartes, quand Alexander le prend le flanc droit, il y a tellement de circuits de passes qui ont déjà été créés entre Fabien et le reste de l'équipe que le voir en défense centrale, je pense que ça empêcherait Klopp de continuer la progression de l'équipe qu'il veut là actuellement. Donc, moi personnellement, en tant que fan de Liverpool, j'espère que Gomez va rester en défense centrale. Je pense que Fabio va jouer 6 et qu'il sera à ses côtés, il y aura Jordan Anderson et Thiago Alcântara. Bon, après, ce n'est que mon avis, mais bon, voilà quoi, voilà ce que je peux dire sur ça. Je sais pas si c'est quelque
chose. Non, mais pour répondre à ce que tu dis, je ne pense pas que l'objectif de Klopp, c'est de mettre Fabinho en défense centrale. Non, je pense que
ça serait
regrettable. Oui, non, mais je dis qu'il peut, il peut beaucoup dépanner en défense centrale.
Oui, là,
et sur beaucoup de matchs, il peut faire mieux que Joe Gomez. Je pense que ça serait regrettable pour de se priver des qualités de Fabinho au milieu et plutôt de bénéficier de son jeu en défense centrale.
Moi, je pense que les qualités de Fabinho sont primordiales. Le jeu de Liverpool, c'est justement ça. Moi, je pense pas que les qualités de Fabinho en défense centrale.
Je ne pense pas que tu puisses me citer beaucoup de matchs où Joe Gomez a affiché le niveau que Fabinho a affiché.
Qu'est-ce que tu me dis? En fait, c'est ça le problème. Tu ne peux pas me dire que Joe Gomez, depuis qu'on a été, il n'a fait aucun bon match. C'est pas vrai.
Non, je ne dis pas qu'il n'a que des absences. Il peut avoir des absences, mais avec ce que Fabinho a montré en défense centrale.
Fabinho a joué quand même que 2 matchs hein, à Liverpool en défense centrale. Tu joues un joueur 2 matchs.
Oui, c'est vrai.
Le dernier match. Vas-y.
Oui, mais le dernier match contre Chelsea, il a quand même affiché un très haut niveau.
On se rappelle de Fabinho. On allait jouer à l'Atlético Madrid. Il était le plus mauvais au milieu de terrain. Ça arrive qu'il soit mauvais et qu'il a été mauvais sur des matchs cette année. Mais ça, Fabinho, pour ça veut dire que
Joe Gomez a été plus mauvais que Fabinho ce jour-là.
T'es fou! C'est Fabinho qui fait
Joe Gomez qui a coupé l'élimination de Liverpool ce jour-là.
Qu'est-ce que tu me dis? C'est Fabinho qui veut prendre son camp à l'Atlético? Joe Gomez
ne fait rien. Fabinho
se fait avoir 2 fois. Ok, bref, tu as ton avis. Je crois que ça nous sert à rien de faire ce débat. Moi, je sais les qualités de Joe Gomez. Je sais pourquoi il est aujourd'hui défenseur central de Liverpool. C'est pas pour rien. Je pense qu'on va continuer sur le sujet. On va parler maintenant globalement du reste du match et on va aller. Je pense qu'on a dit un peu sur déjà assez parlé de Liverpool, mais on va finir légèrement de parler de parlant de joueurs qui a, voilà, Thiago Alcântara, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Il a ébloui le record une nouvelle fois. Il a battu le record de passe de l'histoire de la première ligue en militant. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Qu'est-ce que vous pensez de son arrivée en Angleterre, son arrivée à Liverpool et de ce que vous espérez le voir faire?
Bon, déjà, son arrivée à Liverpool, franchement, c'est un gros coup dur pour toute la concurrence. Parce que déjà, Liverpool, c'était très fort. Là, ça devient très, très fort. Mais quand tu dis, il a ébloui lors du dernier match, ébloui, je pense que c'est un mot un peu trop fort. Il a été au niveau. Ébloui, pas encore. Mais il a fait son match. Il a fait du Thiago Alcântara. Je pense pas qu'il a ébloui. Je pense qu'il fera de meilleures prestations que celle de la dernière fois. Voilà, je pense que ouais, c'est un gros coup dur pour toute la concurrence, surtout pour Man U, dont on parlera à la fin de l'émission, bien sûr.
D'accord. L'André, tu en penses quoi?
Écoute, le joueur, on le connaît, son talent, on le connaît. La question qu'on se posait, c'est combien de temps il mettra à s'intégrer en première ligue. Apparemment, il n'a pas eu besoin d'une minute de plus que les autres. Il est très bien entré dans le match. Son entrée n'a pas pesé négativement.
Parlons de son entrée. Parce que l'entrée arrive à un moment précis, c'est la mi-temps. C'est quasiment la dernière fois où j'ai vu Klopp faire un changement à la mi-temps. C'est Liverpool qui va jouer à Londres Tottenham, le match où on perd 4-1. Et Harry Kane fait un triplé, je crois. Et Matip et Lovren sont désastreux. Ils sont extrêmement mauvais. Et ils sont le Rennes à la mi-temps. C'est la dernière fois que j'ai vu le club faire un championnat à la mi-temps. Donc, voilà, c'est significatif de se dire, voilà, Chelsea a pris en rouge. On doit continuer de dominer, de pousser pour vite marquer et pour se mettre à l'abri dans ce match. Jordan Henderson a ressenti une légère douleur. Tu le sors tranquillement, tu fais un coup de Thiago sans avoir peur, en te disant, voilà, c'est un top class player, il va le montrer. Et il rentre et il est bon. Ça, c'est une entrée, je trouve
que il est un détail près. Il est bon un détail de ce pénalty.
Après, le pénalty, moi, c'est
ça. Il a la chance derrière que le gardien arrête.
Moi, je continue de le dire, le pénalty, pour moi, n'existe pas. Mais bon, après, j'ai vu hier sur Sky Sports, certains qui étaient plutôt de mon avis, il y avait le frère de comment on appelle, de Redknapp. Comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Le jeune Redknapp qui est sur Sky Sports, qui était de mon avis, avait vraiment le temps là. Moi, personnellement, penalty, je trouve que Bernat le joue très, très bien parce que voilà, il pousse le ballon et qu'il voit Alcantara lui nous a foulé. Voilà. Mais bon, après, je peux comprendre. Ouais, on peut voir son match, ce prisme, se dit que voilà, il a combien de pénalty. Mais quand on voit la façon dont, comme certains disent, il laisse du temps aux autres. C'est-à-dire, c'est au milieu, c'est au Bayern que pleine capacité à absorber le temps et à lui donner aux autres. Parce qu'il joue très vite et il voit très vite. Il y a certains ballons que d'habitude, je pense que par exemple, je ne sais pas, Bejadou aurait touché 2-3 fois avant de donner la passe. Et je pense que ça ralentit le jeu. Lui, on nous touche, j'ai vu un ballon. Que Robertson envoie, il fait là, en même temps, pied gauche, il envoie de l'autre côté Arnold. Arnold a quasiment 5-6 secondes de libre pour faire son centre, tu vois. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être encore plus permettre à des joueurs comme Alexander Arnold, comme Robertson, d'avoir le temps de déposer des ballons. Et ça, c'est un apport, je trouve, énorme dans le jeu de Liverpool.
Oui, je pense que tu voulais parler au début de Jimmy Redknapp.
Ah, exact. Non, Jimmy, c'est le père, non?
Henry.
Oh, oui, c'est le bon, ouais.
Voilà, Henry, voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Henry, ah, là. Oui, il est sur Sky Sports.
Ah, oui. Donc, je voulais dire, tu as dit oui, qu'il a fait entrer à la mi-temps. Je pense qu'un joueur du calibre de Alcantara, on savait déjà qu'il allait jouer ce jeu parce qu'il est déjà il est allé s'échauffer très tôt. Je pense à partir de la 15e, 20e minute, on le voyait déjà s'échauffer. Après, peut-être pas forcément à la mi-temps, mais avec le rouge, je pense que c'était évident qu'il devait entrer parce que je pense que Klopp a voulu priver totalement Chelsea de la balle et voilà, imposer un jeu devant la surface de Chelsea. Et connaissant la qualité de tenue de balle de Alcantara, c'était un changement évident. Et voilà, je pense que son coup a marché et bon, ça a donné ce que ça a donné.
D'accord, je vois. Landry, tu as un mot à dire encore sur Alcantara?
Ah ben écoute, ça reste quand même 45 minutes.
Contre une équipe à 10, il faut le noter aussi. Donc, c'est pas extraordinaire aussi.
Contre une équipe à 10, voilà. Une équipe affolée aussi.
Voilà.
Donc, il faudra attendre de voir comment est-ce qu'il réagit dans les prochaines entrées.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Après, il faut aussi dire qu'il aurait pu coûter quand même l'égalisation à Liverpool. Parce que
l'égalisation, le
2-1. On était très loin d'une égalisation.
Après le 2-1, il y a la Grinta, il y a
tout.
Pas dans cette équipe-là, je suis désolé. Pas dans cette équipe de Chelsea-là.
C'est le supporter de Chelsea lui-même.
Football, malheureusement, parce que football, ce penalty transformé aurait pu.
Moi, je pense que ce penalty aurait pu rendre le match plus intéressant, mais je pense pas que Chelsea aurait pu égaliser. Mais bon, ok, je vois. Mais il faut, quand Landry disait que c'est Landry, je crois, ou Arsène qui disait il y a quelques semaines que c'était tout à fait normal pour un joueur de son niveau de rentrer et de jouer comme ça. Moi, je suis pas totalement pas d'accord parce que Liverpool, le club, on a vu plusieurs années, pour incorporer les joueurs, c'est pas petite touche. Fabinho, David Keita, quasiment tous les joueurs qui ont été achetés, à part ceux qui étaient là au départ, je parle des Digital League, qui avaient le système Klopp dès le départ, tous ceux qui ont été achetés ont mis du temps avant de jouer. Parce qu'il y a une façon de jouer, une façon d'aller au pressing, de couvrir les espaces. Parce que, par exemple, l'année dernière, on a vu quelque chose que peu de joueurs voient. C'est la façon dont Anderson prenait le couloir droit pour permettre à Alexander Arnold de s'occuper que de l'offensive. Et Anderson couvrait quasiment tout cet espace-là. Il y a certains trucs dans la façon de jouer de club qui sont tellement spécifiques que ce n'est pas tout le monde qui rentre comme ça et qui fait cette erreur. Moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Je pense que c'est les conditions qui ont permis de. Laisse-moi venir. Après, je te laisse. On parle de Thiago Alcantara. Oui, Thiago, mais tu vois. Qu'importe le joueur. Non, je suis totalement d'accord que c'est un world class. Je suis totalement d'accord que c'est un world class player. Mais après. Qu'importe le joueur, il y a des types, tu vois, par exemple, il y a ces joueurs maintenant, tu peux être en mode classe, tu vas arriver dans l'équipe de Guardiola, tu vois, au milieu de terrain. Il y a une façon dont les redoublements, les triangles sont pas au milieu de City. Si tu n'es pas rapidement, tu n'arrives pas rapidement à comprendre, tu ne seras pas rapidement dans le logiciel de Guardiola. Donc, c'est ce que je dis à des coachs qui ont une telle identité dans leur jeu qu'il faut, je pense, quand même prendre du temps plus légèrement pour comprendre. Donc, bon, il est rentré, mais moi, je ne dis pas que, voilà, je trouve que c'est des circonstances qui ont fait qu'il est rentré. Moi, je pense que si Liverpool marque avant la mi-temps, ou je donne l'exemple, était Liverpool dans le 0, et que, voilà, il ne rentre pas, moi, personnellement, c'est ce que je pense, il ne rentre pas, s'il rentre, c'est, voilà, après les 5 minutes, il donne du temps de jouer en première ligne. Moi, je pense que c'est tout ça. Bon, après, c'est que mon avis. Mais allez, vous pouvez dire quelque chose, je crois.
Non, j'allais dire la même chose que Arsène. C'est que quand tu parles d'un Naby Keita ou quand tu cites les autres crus de Liverpool, c'est pas vraiment le même niveau que Thiago. Quoi. On parle de quelqu'un qui a tout remporté avec Barcelone, qui a tout remporté avec le Bayern, qui arrive dans un championnat certes relevé, mais qui arrive avec une certaine expérience, avec une certaine hauteur par rapport à la concurrence, même au sein du club, je vais dire, et qui n'a pas la pression d'un jeune joueur transféré dans un grand club. Les grands clubs, lui, n'a fait que ça de toute sa carrière. Il sait encore comment aborder un match, qu'il soit gagné ou pas.
D'accord. Bon, les gars, voilà. Maintenant, j'ai écouté vos avis. Je vous propose de continuer à analyser ce match en passant. Maintenant, on va parler de Chelsea. On va faire un vrai focus sur Chelsea parce que je pense que ceux qui nous écouteront auront envie de savoir un peu ce qu'on a pensé du match de Chelsea. Sur l'approche du match, Klopp Lampard, qu'est-ce que vous avez pensé, cher Bobby?
Moi, je pense que Lampard a appris par rapport à l'année dernière. Où il se permettait d'aborder ce genre de match avec cette ambition d'aller attaquer ou d'aller chercher quelque chose offensivement. Je pense qu'il a appris dans le sens où il a su faire le point sur les joueurs dont il disposait, faire le point sur les forces qu'il pouvait mettre dans cette bataille-là. Et il a très vite compris que ça ne servait en fait à rien dans le match d'hier d'aller disputer la possession de balle avec Liverpool, qu'il gagnerait à être discipliné derrière et à profiter des deux ou trois occasions de contre qu'il aurait eu dans le match. Ce que son équipe a su faire parfaitement, dans la première mi-temps en tout cas. Et moi, je pense que sur ce plan-là, il a grandi par rapport à la saison dernière. Maintenant, reste à voir. Il n'a pas encore bien appris certaines choses pour moi. Il n'a pas encore appris aujourd'hui quel est l'impact négatif qu'un gardien de but instable peut avoir sur toute une équipe. Il n'a pas encore appris aujourd'hui que si tu as un Zuma dans l'équipe qui fait un match vraiment au-delà du simple match correct, Zuma a été impressionnant hier. Tu as un jeune Rix, même s'il se donne dans tous les duels autant qu'il peut, il ne les gagne pas tous. Mais on sent qu'il y a de l'engagement quand il s'en va attaquer. Quand ces joueurs-là voient derrière que sur une passe tout à fait anodine, tout à fait simple, ça peut finir dans le but, quand ces joueurs-là voient qu'ils doivent considérer aujourd'hui leur propre gardien de but au même titre que l'attaquant adverse, ça ne donne pas envie de se tuer pour l'équipe. Il faut que tu aies un gardien de but derrière qui te donne envie de continuer tes efforts défensifs.
En offrant ce ballon-là, qui devait être aligné derrière, en effet.
Oui. Alors, de loin, moi, j'aurais préféré un Caballero qui n'a peut-être pas la même aisance technique
que Kepa, mais qui a l'avantage de rester concentré sur son match. Moi, j'aurais eu Caballero dans le match hier avec la défense que Chelsea a présentée, avec le milieu de terrain qui a quand même tenu un bon moment. Je pense que ça, on n'en serait pas arrivé à un point où on voit un gardien de but offrir un ballon à un attaquant ou essayer de jouer la grimace face à un Sadio Mané. Quoi. Sincèrement, Lampard doit apprendre qu'il y a des joueurs qui, sous une certaine forme de pression, craquent. Et Kepa en fait partie. Malheureusement, Christensen en fait partie.
Et Mount.
Alors, vu la configuration du match, hier, je doute fort que Mason Mount pouvait faire quelque chose autre que ce qu'il a fait. Quoi. Il n'aurait pas pu peser davantage sur le milieu de terrain ou même sur la défense de Liverpool. Alors, c'est un tout. Hein. Pour moi, tout est lié. Faut pas prendre la performance de Mount et l'isoler de celle d'un Kanté, par exemple. Non, pour Kanté qui se donne. Qui récupère
moi, je trouve personnellement, Kanté est le meilleur au milieu.
Alors non, moi j'en doute. J'aurais préféré avoir deux Kovacic.
Non, justement, là, je voulais même te poser la question. Parce que moi, je trouve personnellement que Kovacic était le moins bon des milieux de Chelsea. Je vais te dire.
Alors, ça dépend.
Non, je vais te t'expliquer pourquoi en fait je dis ça. Dans deux configurations, je pense que Kovacic, c'est l'un des joueurs, on l'avait vu quand il était au Real Madrid, qui, avec le ballon, dans une équipe qui domine, je pense que c'est l'un des meilleurs rouleurs. Moi, personnellement, je paierais pour aller le regarder. En mode rouleur, domination, il est excellent. Mais je pense que quand Kovacic, c'est une équipe qui doit travailler et couvrir l'espace où par exemple, Firmino venait rester entre la défense et le terrain, je pense que Kovacic, ce n'est pas le joueur à prendre. J'ai regardé plusieurs fois ses placements et pour moi, tu as deux Kanté et un Mount, tu as encore plus de chances de faire quelque chose hier. Après, bon, voilà, c'est mon avis. Mais...
Alors, c'est ce que je disais, ça dépend de quel aspect du match tu regardes. Si tu veux regarder le match sous forme de Liverpool, ultra dominateur, ultra possesseur du ballon, et qu'il faut un joueur pour aller chercher la balle dans les pieds de Liverpool, tu mets Kanté en avant. Mais quand tu regardes le match dans le sens où tu as une équipe qui est asphyxiée, je veux dire, par l'adversaire, par le positionnement de l'adversaire, et que sur chaque ballon récupéré, il faut faire une relance propre devant, en sachant que tu aurais au maximum 3-4 occasions d'aller contrer dans ce match-là. Moi, je préfère un Kovacic qui est beaucoup plus propre à la relance, qui est beaucoup plus propre à aller trouver un Havertz ou aller trouver un Werner, plutôt qu'un Kanté qui va juste gratter la balle
dans le pied.
Je ne suis pas jusqu'à la transmission de balle.
Je comprends parfaitement ce que
c'était
tu
très dis. Frustrant pour moi, en tant que supporter de Chelsea, par exemple, de voir un Kanté qui est là sur tous les duels, mais il se contente juste de toucher la balle, de la repousser vers un autre adversaire, plutôt que d'aller toucher un des joueurs rapides qui sont devant. C'était très frustrant pour moi.
Très sincèrement, je pense que oui, pour moi, Landry a raison parce que dans le match.
Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, c'est juste des amis.
Tu pourrais le voir à certains moments juste en train de courir un peu partout.
Ouais.
Avec l'entrée de Thiago Alcantara, franchement, je ne pense pas qu'il pouvait faire quelque chose d'autre à parcourir.
Après, il
ne faisait que ça.
Moi, je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas d'accord avec ce point. Moi, je pense que autant tu me dis, voilà, tu sors Jorginho, qui pour moi n'a plus le niveau de jouer dans un club comme Chelsea, et tu utilises Kanté Kovacic, tu m'entends mieux, je suis d'accord avec toi. Mais autant me dire que Kovacic était meilleur à Kanté hier, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, après, c'est des avis.
Non, le cas Jorginho, on y reviendra. Quand je dis que Lampard n'a pas appris, c'est ce genre de joueur-là qui, pour moi, ne devrait même plus être sur la feuille de match. Mais non seulement tu le mets sur la feuille de match, tu le mets titulaire, mais tu lui donnes le brassard et il a zéro impact sur ce qui se passe dans sa zone.
D'accord. Il subit.
Pour moi, Jorginho, voilà, il subit le match.
Oui,
et ça ne devrait pas être son rôle de subir.
Je suis d'accord.
C'est sur cette point-là, ces quelques détails-là que je vois que Lampard n'a pas encore tout appris. Et ça va lui coûter cher s'il persiste à vouloir garder certaines dynamiques ou certaines choses.
Après,
je peux comprendre qu'il a...
Vas-y.
Non, je dis après, je peux comprendre qu'il a des joueurs qui sont blessés, qu'il a une certaine dynamique entre un certain nombre de joueurs. Je veux dire, la cohésion entre Jorginho, Kovacic, Kanté, quand même, elle tournait déjà un peu bien.
Je peux comprendre qu'ils veulent garder cette dynamique-là face à un certain type d'adversaire, mais il faut prendre des risques certaines fois.
Mais il
n'en a pas pris.
Est-ce que tu ne penses pas que commencer avec un milieu Kanté ou Vasic Mount et utiliser par exemple Tammy Abraham en 9, Werner sur le côté Ziyech, le côté aurait été plus utile?
Moi, j'aurais même préféré avoir Giroud avec Werner plutôt que Tammy Abraham. Ouais. C'est vrai qu'il fait une entrée, on va dire, un peu intéressante, mais j'aurais préféré avoir Giroud dès le départ et avoir Mount dans le milieu de terrain. Pour moi, un joueur comme Havertz, qui a complètement qui est encore sous la pression de ce transfert très cher du joueur crack qu'on envoie et qui doit tout couvrir, n'est pas prêt mentalement. Il est peut-être prêt physiquement, mais mentalement, il n'est pas prêt à aborder ce genre de rencontre. Moi, je serais parti dans du pur classique. On ramène ce milieu de terrain avec Mount, Kanté, Kovacic, comme tu le dis. On met deux attaquants qui sont Werner et Giroud, sachant que Giroud va servir de pivot et que Werner va tourner autour. J'aurais préféré avoir un schéma comme ça.
D'accord. Je vois un peu. Là, Arsène, on ne t'a pas entendu là. Tu penses quoi du match de Chelsea, du travail de Lampard? Quelles sont les erreurs que tu as pu voir sur ce match?
Je suis d'accord avec Landry. Lampard n'a pas encore tout appris. Mais je pense qu'il n'est pas encore très bon tactiquement durant le match. Il n'arrive pas encore à changer le cours d'un match. Mais après, c'est normal. Il n'a pas forcément encore l'expérience qu'il faut, je pense. Et je pense que c'est aussi quelqu'un de très impulsif qui prend beaucoup de mauvaises décisions durant le match. Et après, je pense que Klopp a raison pour ce qu'il lui disait. Voilà, tu ne peux pas avoir 11 joueurs et espérer qu'ils jouent. Enfin, une semaine plus tard, comme par magie, ils jouent au meilleur football. C'est pas possible. Donc, je pense que il faut voir peut-être après quand il aura tous ses joueurs. Mais logiquement, Klopp l'a surpassé tactiquement.
Oui. Bon, après, les gars, moi, l'excuse de...
Après, il faut avouer que le carton rouge a beaucoup aidé Liverpool parce qu'avant le carton rouge, Christensen était l'un des meilleurs joueurs côté Chelsea.
Bon, je suis pas d'accord. C'était Zuma qui portait cette défense. Moi, je suis pas d'accord.
Bon, un des meilleurs joueurs.
Ok, d'accord.
Après, je crois que Lampard et l'équipe se sont perdus après le carton rouge. Et Liverpool, avec l'expérience qu'ils ont, ils ont juste déroulé. Et voilà.
Oui, mais après, les gars...
J'aurais dit que l'équipe s'est perdue parce que Lampard s'est perdu. Je ne sais pas quel discours il a tenu dans les vestiaires.
Il a dit à la mi-temps...
Que tu sur le terrain et que tu te fais bouffer.
Il a dit qu'à la mi-temps... Il a dit
littéralement bouffer.
Oui, mais il a dit à la mi-temps, Sky Sport l'a interrogé, il a dit à la mi-temps, il a dit à ses joueurs qu'ils n'ont pas peur, jouer un peu plus avec le ballon. Et c'est ce qu'il comptait leur dire avant le carton rouge de Christensen.
Quand tu leur dis ça, tu es une voix faible, quand tu leur dis, écoutez, on
mais va... Mais tu n'étais pas dans les vestiaires. Alors.
Faisons la passe, pardon le ballon. Non, Lampard, il n'a pas ce ton fort.
Tu n'as jamais vu Lampard. Tu n'es pas dans les vestiaires de blues.
Non. Il faut. Non, Lampard n'a pas cette image-là d'un coach aujourd'hui qui peut péter un câble dans un vestiaire.
Tu vois ce que tu dis.
Il faut savoir péter un câble dans un vestiaire. Je pense qu'on aurait eu un Mourinho hier. Kepa, il finit pas ce match et Kepa, il fait ses valises hier.
Non, mais Kepa, même avec Sarri, on a vu ce qu'il faisait. On lui dit de sortir, il sort pas.
Mais les gars,
Sarri ne pète pas un câble, ça je pense que c'est pas vrai.
Les gars, mais après, est-ce que
tu penses que c'était possible que Chelsea joue avec le ballon après le rouge contre Liverpool avec
non, en fait, c'était avant le carton rouge. Il a dit que c'est ce qu'il comptait leur dire avant le carton rouge.
Donc voilà, et ben après, sûrement il s'est perdu. Ben, c'est normal.
Il s'est perdu, justement.
Bon, les gars, moi, j'entends ce que vous dites, mais après, quand vous dites que l'exemple de l'idée du. Il n'avait pas tous ces joueurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. On a déjà eu à parler plusieurs fois de Chelsea. Je me rappelle, on a fait une émission la dernière fois. Moi, je vous ai metté mes doutes sur Chelsea de Lampard. Sur l'année dernière, le jeu pro du Louvre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On en a parlé. Et je disais que moi, beaucoup de vos victoires, beaucoup de vos matchs l'année dernière, C'était pas ça. Ça, c'était créé ici grâce à des individualités. Moi, je pense que trouver l'exemple du, voilà, Lampard, que Arsenal a dit, Lampard n'a pas encore tous ses joueurs, c'est trop facile, en fait, moi, je trouve. Parce qu'un coach qui est là depuis un an et demi, maintenant un an et demi, qui a comme des joueurs de qualité, il n'a pas l'effectif de Brighton, quoique Brighton est une belle équipe de football, mais il n'a pas l'effectif de West Ham, l'effectif de Bournemouth, je ne sais pas, ou de Dunsfield. Il a une effectif de qualité, mais le rendu dans le jeu, les idées, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sais pas te dire, Lampard a une idée fixe de jeu. C'est-à-dire, quand je vois Lampard, je m'identifie à quelque chose, que ce soit un jeu de transition, de possession, de contre-attaque rapide, un bloc médian, je n'identifie rien. Je pense que très souvent, c'est les qualités individuelles déjà incluses dans le groupe, ainsi que le travail fait avant par un coach comme ça arrive. Parce que quand vous rappelez le début de la saison, dernière, quand Lampard vient, Chelsea joue très bien. Les quelques points de match du football, tout le monde dit que c'est la patte Lampard. Moi, je disais déjà non. C'est le travail quand même de Sarri et de Conte, même si quoi que Conte, bon. Mais c'est le travail quand même de Sarri. Voilà qui était encore un peu le truc là. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien qui me dit voilà, c'est la patte Lampard. Donc, ça, moi, je trouve qu'il y a une remise en question déjà à faire sur Lampard, sur point. On ne peut pas dire que c'est parce que juste il n'a pas ses joueurs. C'est pas comme si genre des joueurs qui n'ont même pas encore joué en première ligue. Que ce soit Ziyech, Thiago Silva, vont venir tout d'un coup et vont régler tous les problèmes et subitement, Chelsea va commencer à jouer au football, ils vont taper, ils vont se dire non. Donc, les hommes d'accord, les jeunes
non, disent, mais non, attention.
Les jeunes disent non, mais Chelsea n'a pas ce jeu, c'est trop facile.
Attention, je n'ai pas dit que c'est parce que Chelsea n'avait pas ses joueurs qu'ils ont
perdu. Mais c'est ce que j'ai dit là. Tu as dit qu'ils n'ont pas ses joueurs, donc qu'est-ce qu'on peut comprendre?
Ah oui, mais non, attends, je vais corriger. Je veux dire que si Lampard a tous ses joueurs, il aura beaucoup plus de...
Des solutions.
De choix, de solutions, non, oui.
Je ne pense pas.
Voilà,
il lui manque combien de joueurs, en fait? Il lui manque Ziyech, il lui manque Silva, il lui manque Pulisic.
Chilwell.
Il lui manque après beaucoup. Il lui manque que 3-4 joueurs. Alors qu'ils viennent d'arriver, je ne sais pas de quelle manière ils comptent les intégrer, mais jusqu'ici, ça ne fonctionne pas encore bien. Si ce n'est pas Werner qui arrive à sortir un peu, et là encore, il faut être encore très indulgent avec lui pour accepter ce niveau-là. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pensent pouvoir les intégrer et en faire une équipe qui fait dire « waouh ».
Moi, je suis totalement
d'accord. Au début du mercato, tu étais d'accord avec nous tous que c'était un mercato waouh.
Oui, c'était un mercato waouh.
On jouait
un mercato waouh. Ou une équipe waouh. Il faut pouvoir les intégrer. Je ne sais pas quel discours il a tenu à Bet, par exemple, qui a été transparent le premier match. Et qui, hier, je ne me rappelle pas de combien de bons ballons il a.
Moi, je l'ai trouvé déjà mieux hier quand même. Je l'ai trouvé hier mieux dans les cours.
Oui, un peu mieux.
Il y avait déjà quelque
chose de... Par rapport à ce qu'on attendait.
Ouais.
Moi, j'aurais été beaucoup plus convaincu si, par exemple, il dit qu'il leur faut un temps d'adaptation. Il les laisse comprendre un peu comment la première ligue fonctionne. Il part sur cette équipe-là qui a fini quatrième quand même l'année dernière. Il essaie de tirer le meilleur de cette équipe, qui n'était pas mauvaise déjà.
Oui, oui.
Il part de cette équipe pour tirer quelque chose quand même, ramener, rattacher un peu cette fin de saison qui a été bonne, 6 victoires quand même à domicile sur les 6 derniers matchs, les rattacher un peu à ce qu'il veut faire cette saison, c'est-à-dire aller quand même titiller des équipes comme Liverpool. Mais quand tu arrives dans un match, pour une équipe qui aujourd'hui prétend pouvoir aller chercher le titre, quand tu rencontres un Liverpool, ce n'est pas ce visage-là que tu dois montrer. Il faut être agressif.
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, pour moi, Lampard a une
grosse conséquence
sur les résultats actuels au Chelsea. C'est, pour moi, c'est l'un des points qu'il faut le questionner. Je trouve qu'on est trop gentil avec Lampard. Je me rappelle
quand je l'avais dit
il y a quelques semaines, voilà, les gens me disaient non. Je dis, déjà, sur la saison, je peux te le dire, il y a Rui qui m'appelle, waouh, le jeu de Chelsea. Ils ont gagné parce que, voilà, les individualités étaient au sommet. Je parle de Pulisic qui fait une fin de saison exceptionnelle. Voilà, des gens, c'est des joueurs qui les ont portés. Mais collectivement, je le vois plus transcendant. Et aujourd'hui, il fait le premier match, il gagne 3-1. On se demande combien il va être 3-1.
Comment il arrive à gagner ça? Ouais.
Parce que c'est vraiment sur le match pour Brighton. Tu crois que Brighton, si tu regardes, tu crois que Brighton, c'est le Barça et Chelsea, c'est Valladolid, quoi. Voilà, il domine. Brighton domine, que ce soit les possessions, les occasions.
Brighton
ne conclut pas devant et Chelsea punit. Mais après, ils disent que c'était un bon match qu'il a aimé. Plus le match. Moi, ce qui m'énerve encore plus sur le coach, il y a une vidéo qui se fait dans les Stop Crying Front and Back, c'est parce qu'il a une capacité à ne pas accepter que voilà, il a été mauvais, simplement dire voilà, tu vois, tous les grands coachs disent même mourir, dit parfois on n'a pas été bon, tu vois. Il ne faut pas chercher des excuses pour tout. Parce que ce soit quand il était en deuxième division, en championship, quand il a avec le dernier Kanti, quand il se fait battre deux fois par Leeds, il se plaint. Il dit non, c'est l'arbitrage. Non, c'est parce que Bielsa nous a espionné avec ce truc. Il doit toujours trouver une excuse qui n'est pas que ces joueurs ont été mauvais.
Il n'est pas lui.
Voilà, c'est pas normal.
Enfin, le carton rouge. Le carton rouge. Il a déjà dit que ce n'était pas un carton rouge.
Voilà, justement, en plus, alors ça, tu regardes ça. Tu te dis, mais comment tu peux dire ça? En fait, c'est une capacité, comme on l'appelle déjà dans le crime front, c'est voilà, gars, dis, j'ai pas été bon, ça ne va pas t'enlever ta qualité.
Il chiale beaucoup.
Voilà, il pleut trop. Même Mourinho, il y a quelqu'un qui a dit, Mourinho pleurait comme ça, Mourinho a le mérite d'être drôle. Mais il pleure aussi comme ça, mais il est drôle, mais il est charismatique, mais il a quelque chose qui fait que voilà, tu te dis, mais celui-là il est fou. Mais pourquoi il pleure pour rien, pour tout.
Non, mais. Ouais, c'est vrai qu'on est gentil avec l'enfant, mais. C'est le début.
Écoute, ce n'est plus ses débuts. Et il vient de dépenser 223 millions. Donc ce n'est plus. Ouais, on ne peut pas être indulgent.
23 millions, mais la saison a commencé.
Et déjà, un match, il y a déjà un match prêt. Alors, pour moi, je suis dans la logique d'un supporter qui voyait son équipe aller remporter un titre. Mais là, ça fait déjà 3 points d'écart sur Liverpool. Il va falloir aller chercher. Dans la
tu vois Chelsea remporter un titre.
Ça fait déjà 3 points qu'il faut aller chercher.
Pardon? Tu vois Chelsea remporter un titre cette année?
Au début de la saison, j'aurais pu le dire. Mais après, le match... Et déjà 3 points d'écart.
À la vie des supporters. Hein.
Non.
D'accord.
Tu vois Chelsea devant ce match?
Bah, comme tout le monde. Non, mais ok. D'accord.
Non, mais l'André.
On a eu le temps de parler déjà sur Chelsea, les gars. Je vous propose déjà de conclure cette analyse de match. Je crois qu'on a parlé des deux coachs, on a parlé des deux équipes, de ce qu'ils ont produit sur le terrain. Voilà, j'aimerais que vous me disiez les deux joueurs, bon, le joueur qui vous a plu dans ce match, pourquoi, et celui qui vous a déplu, chacun.
Alors, je disais, le joueur qui ne m'a pas plu, ce n'est pas très difficile de deviner, ce n'est pas.
Oui,
pour toutes
d'accord.
les raisons qu'on sait.
Voilà.
Hein.
Oui.
Et celui qui t'a plu. Le joueur qui m'a par contre agréablement surpris, c'est Zuma,
oui.
Qui malgré toutes les erreurs, enfin malgré cette grosse erreur de son gardien derrière, a su garder la tête relativement froide. Il n'a pas commis de grosses erreurs hier.
Est-ce que tu penses personnellement que quand Thiago va revenir, ce sera la double, ce sera avec Thiago la double?
Je pense que c'est Zuma qui mérite.
Pas Tomori, parce que Tomori aussi a fait une belle entrée.
Je pense que encore qu'il va falloir que Thiago Silva convainque encore qu'il mérite une place de titulaire à Chelsea.
Ouais, toi et ton amour.
Moi, je ne suis pas convaincu.
En fait, ton amour immense pour Thiago Silva. Tu le vénères.
J'aurais peut-être même préféré une doublure Zuma à Spiliqueta une fois que Spiliqueta sera 100% remis que de voir Thiago Silva.
Non, mais Landry, tu n'auras pas fait beaucoup d'en panne, hein, je t'assure.
Ok, d'accord. Arsène. Le joueur que
j'ai pas aimé, c'est, enfin, Mankepa ne nous surprend plus. Le joueur que j'ai pas aimé, enfin, est-ce que je vais dire j'ai pas aimé, mais Havertz, c'est pas encore ça. On attend plus. Je pense qu'il n'a rien montré hier.
Bon, après, c'était là, je trouve que tu es un tout petit peu sévère avec Havertz. Hier, contre Brighton, moi, j'ai trouvé qu'il a été mais quoi, je
veux oui, Brighton avec le but.
J'ai trouvé que voilà, il y avait des courses, il y avait des petits. Il a fait une passe là, à manque dans la profondeur là. Qui... Je sais pas, il y avait déjà un début de quelque chose. Donc c'était bon, on va être trop dur avec lui, c'est un
gamin. Peut-être je suis un peu trop dur, mais bon, je vais pas citer Kepa, parce que Kepa, on sait déjà, s'y attend déjà.
Je vois ce que tu dis.
Et je dirais rien de nouveau. Donc moi, j'attends un peu plus de alerte. Et
le joueur que tu as aimé.
Le joueur que j'ai aimé, Zuma, il étonné, mais le joueur que j'ai aimé, c'est Werner, il s'est bien. Enfin, je pense qu'il s'est bien.
C'est des deux côtés, hein. C'est pas que du côté de Chelsea, hein. C'est des deux côtés. Hein.
Oui, non, je vais sur Chelsea d'abord.
Ok, d'accord.
Après, Werner, c'était le seul véritable danger côté Chelsea. Je pense que pour le début, oui, il est bon. Voilà, moi, il m'a beaucoup plu. Côté Liverpool, c'est difficile de dire un joueur qui ne m'a pas plu côté Liverpool. Après, un joueur qui m'a plu, Sadio Mané, il confirme toujours ce qu'il est, le pressing de A à Z. C'est les deux buts, c'est son mérite. Après, un joueur qui ne m'a pas plu, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ne m'a pas plu côté Liverpool.
D'accord, d'accord. Landry, est-ce qu'il y en a?
Fabinho m'a dégoûté. mais oui, il n'y a pas un joueur à pointer négativement du doigt côté Liverpool. Par contre, moi, je veux mettre une mention spéciale sur le gardien de but. Il faut aller le chercher ce penalty.
Ouais.
Parce que je rappelle que Jorginho, depuis qu'il est en première ligue, c'est quand même 8 sur 8.
Ouais, aucun
raté. 8 tirés en première ligue, 8 marqués. Il faut aller le chercher celui-là et il est allé bien le chercher.
Ouais, ok. Moi, je vais même ajouter que voilà, ce qui est étonné, ce qui fait plaisir, c'est surtout la confiance d'Alisson parce que depuis qu'il est arrivé à Liverpool, on a eu beaucoup de séances de tir au but, que ce soit le Community Shield contre City, donc le Community Shield contre Arsenal. Il y a eu beaucoup de matchs ouais, sur les pénalties. Il était mauvais. Il n'a jamais, même dans les séances.
Je pense que c'est le premier pénalty qu'il a arrêté.
Ouais, à Liverpool, dans les séances, tous les joueurs, qu'importe les matchs, les séances, c'est donc, les gens disaient que c'est un faible qualité, c'est ça. Au moins, on sait que voilà, sur les pénalties, il n'est pas bon. Mais voilà, on perd le Community Shield, il n'arrête rien. Et ce match, le premier penalty, moi je me disais, voilà, c'est Jorginho qui rate jamais, c'est Alisson qui est le plus bon match, c'est le but quoi. Je ne veux pas regarder ce but. Et il va la chercher, ce n'est pas un truc que Jorginho a raté banalement, il va la chercher, ça me fait plaisir pour lui. Ça va lui donner encore plus de confiance. Et comme vous l'avez dit, moi je suis totalement d'accord, il y a voilà, quasiment tous les joueurs de l'équipe qui ont été excellents, il n'y a rien à dire. Même si moi j'aurais quand même une petite, en tant que supporter de Liverpool, voilà, une légère déception pour David Guetta. Parce qu'il est sorti à la 63e minute pour une raison, il était sorti déjà à la 60e minute contre Leeds. Déjà, il y a un changement parce qu'il voilà, il jouait un match sur deux l'année dernière avec Klopp, soit il jouait absolument le match quand il était titulaire, mais il commence la saison en jouant les deux matchs titulaires. Déjà, moi je trouve que c'est une avancée, peut-être que dans l'état d'esprit. Voilà. Dans l'esprit de Klopp, voilà, il commence à gagner une place au milieu. Mais je trouve que, je ne sais pas, le Naby Keita que je vois au début, quand à son arrivée à Liverpool, le Naby Keita que je vois depuis 15 semaines, je ne sais pas, il prenait beaucoup plus de risques. Parfois, il perdait des ballons, j'accepte, mais il prenait tellement de risques dans ses choix de passe sur les deux. Et il prenait le ballon, il portait le ballon. Je ne sais pas si vous voyez, il prend le ballon comme ça, il accélère, quoi, sur 5-10 mètres, il prend le ballon, il cherche une remise. Il fait de moins en moins ça. Il se contente. Il devient limite un Wijnaldum bis, quoi. Sans tête, Wijnaldum que j'adore.
Non, mais attends. Faisal, est-ce que tu penses que si Fabinho retourne au milieu, Naby Keita va jouer?
Ça, c'est une bonne question à se poser parce que moi, je pense que l'idée de Klopp, c'est de partir avec le milieu Fabinho Anderson Thiago. Je pense que c'est le milieu voilà, du rêve quoi, parce que tu as Anderson et Fabinho qui collent là, tout. Tu as Thiago qui peut envoyer des passes magnifiques aux trois devant nous. Moi, je pense que c'est le milieu de rêve de Klopp. Après, je pense que Keita aura toujours du temps de jeu. Il en aura quasi beaucoup de temps à chaque match. Parce qu'il a aussi une qualité qui va revenir en plus. Mais voilà, Wijnaldum, Milner, on a vu Keita, comme beaucoup le disent, ça va être les trois qui vont remplacer très souvent les titulaires. Il y a le jeu de Curtis Jones.
Il y a Chamberlain
qui est blessé, qui va revenir. On a un milieu pléthorique. Ça, je dois l'avouer. On a 8
minutes. Qu'il y aura un départ avant la fin du match.
Il y avait l'idée d'un départ de Aglet, Oxlade Chamberlain à Wolverhampton, mais le club a dit non, qu'il y aura aucun départ. Wolves avait fait une offre de 20 millions.
Et... peut-être pour Wijnaldum
Je ne crois pas. Je pense qu'il va prolonger. Bon, on attend de prendre la prolongation, mais je pense qu'il va finir par prolonger. Après, c'est possible que Wijnaldum, il a un an de la fin de son contrat, qui se dise voilà. Je vais partir, peut-être que je gagne deux premières ligues, une ligue de suite, je peux partir en paix parce que, voilà, peut-être qu'il a aussi arrivé à la fin d'un cycle parce que ça va faire 5 ans pour lui, voilà. Peut-être que voilà, ouais, c'est le moment de voir autre chose. De, il a tout gagné, peut-être d'aller un peu, c'est le moment de voir autre chose, d'aller dans le club. Mais bon, tout ça, on verra. On verra. Les gars, je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur ce match.
Non, on a assez taclé Chelsea déjà, c'est bon.
je pense alors qu'on peut, on peut passer à la partie 2, qui est parler du beau début de saison d'Everton et Crystal Palace. Alors les gars, ces deux clubs sont distincts. Déjà, j'aimerais qu'on parle chacun des clubs. On va commencer d'abord par Everton. Recrutement onéreux, le deuxième club le plus dépensé derrière Chelsea, Travis Pérez qui vient, Real, Alan qui vient de Naples, De Gea qui vient de Watford. Voilà, tu changes ton, quasiment, en fait, tu changes ton milieu de terrain. Parce que tu es passé l'année dernière de Tom Davis, Sigurdsson et je crois un jeune là. Voilà, c'est un milieu Brexit comme ils disent, quoi. C'est un milieu pauvre, quoi. Et avec André Gomez, voilà, à rencontrer le Spurs. C'est ça le milieu de Everton. Et tu passes de ça à un milieu Alan, André Gomez et Doucouré. Tu upgrade de ouf. Puis, tu ajoutes Travis Fonger à la pièce. Tout le monde s'attend à ce que, voilà, Everton montre les pros dès l'entrée. Mais moi, en tant que supporter de Liverpool, et bon, étant donné que je considère Everton comme la troisième équipe de la ville derrière Liverpool, la centre de formation, je m'attendais à ce que Everton fasse du vert, parce qu'ils vont dépenser 300 millions comme d'habitude, et ils vont finir 9e. C'était mon idée, ça. Mais quand j'ai regardé les deux matchs, surtout ceux de la Tottenham, je savais qu'Ancelotti, on dit que voilà, cette deuxième saison, c'est souvent le top. Dans tous ces clubs, le disent un peu comme un moyen. La deuxième saison, c'est très, très réussi. Et à la fin de la saison, on les a joués lors du restart et Liverpool fait 0-0, je crois, à Goodison. Et ils ont des occasions et déjà, tu sens, la mentalité avait déjà changé et de petites idées d'incorporer, même si c'était pas, qu'il n'y avait pas les joueurs pour y arriver. Et voilà, il y a de la progression. Tu vois le point de match à Tottenham. Voilà, même si Tottenham n'était peut-être pas encore bien dans ses potes, les points de match sont bien, ils sont très bons. Tactiquement, tout est respecté. Très peu d'erreurs. Je m'attendais à ce que Mina King fasse des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, ça défend bien. Et Ramès illumine le jeu devant. Qu'est-ce que vous pensez du début de saison de Everton?
Bah, c'est un très beau début de saison. Je pense que le transfert de Rodriguez, il fait beaucoup de bien à Ancelotti, qui le connaissait déjà au Real. Si je ne dis pas, il l'avait déjà entraîné. Donc voilà, Calvert-Lewin et Richarlison, c'est pas des révélations, mais ils confirment juste que...
C'est 15 buts, 15 buts, non, 15 et 16. Richarlison de 16 l'année dernière, Calvert-Lewin et 15, donc c'est des... Voilà, c'est la doublette qui...
C'est pas des révélations, c'est pas une révélation, voilà, mais ils confirment que cette équipe, cette saison, je pense quand même qu'ils iront toucher le top 5, pourquoi pas.
Non, c'est possible. Et on parle des Everton.
Place d'Arsenal.
5-6, pourquoi pas. Mais je pense que cette année, il y aura une surprise. Pourquoi pas avec Everton.
D'accord.
Je dois avouer que je n'ai pas suivi encore en détail un de leurs matchs, enfin un match complet de Everton. Mais d'après les rediffusions, etc., ça joue très bien.
Ouais, moi, je les ai suivis, je peux te confirmer, les deux matchs que j'ai suivis jusqu'au bout, c'est bien. C'est bon, après, c'est du coup, West Brom, l'adversité.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils font deux très bons matchs, mais contre qui est-ce qu'ils font ces deux très bons matchs?
Bon,
moi, je demande à en voir un peu plus d'abord.
Moi aussi, je suis comme toi.
De la qualité de l'équipe. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait depuis le restart. On sent qu'il y a quand même, on va dire, cette patte Ancelotti là, qu'on commence à sentir dans la manière de jouer, dans la philosophie qu'il essaie de poser dans cette équipe. Il a la chance d'avoir deux très bons buteurs. On sait très bien qu'à la fin de la saison, c'est les choses qui comptent en Angleterre.
Si.
Il a la chance d'avoir de très bons buteurs et il essaie quand même d'organiser en fait toute cette équipe derrière pour que ces deux-là soient dans une dans de bonnes dispositions pour pouvoir toujours marquer. Mais globalement, je demande à voir parce que quand tu vois le niveau des équipes qu'ils ont affrontées, il n'y a pas vraiment de quoi être super excité. Déjà,
parlons même de ça. La prochaine journée, samedi prochain, le premier match, c'est le déplacement d'Everton. C'est une équipe dont on a parlé tout à l'heure, c'est les Eagles de Palace. Ça va déjà être un vrai test parce qu'on connaît la capacité des hommes de Hudson. Ça va très bien défendre. Et voilà, ces deux équipes qui ont 6 points. On va voir ce que ça va donner Everton à l'extérieur. Voilà, moi, j'aimerais voir à Palace qu'ils imposent leur jeu comme ils ont vu les deux premiers matchs, qu'ils aillent à Cedar Park et voilà, qu'ils dominent Palace. Parce que Palace, même pour une supporter Liverpool, c'est une équipe que je n'aime pas jouer. Je peux les jouer en pile, mais quand tu passes à Cedar Park, c'est compliqué des fois. Donc, voilà, je suis comme toi, j'attends de voir donc samedi prochain ce que ça va donner contre le bloc défensif de Palace. Parce que les deux premiers matchs, j'ai trouvé Tottenham très laxiste. Le premier n'était pas rentré et West Brom, c'est West Brom. Hein. Je pense qu'ils vont faire l'ascenseur. Mais... Voilà, donc je suis de ton avis. Mais voilà, je retiens quand même que vous avez quand même été impressionné par le début de saison de Everton. Arsène les voit même quasiment titillé de top 5. Toi, tu penses qu'il faut quand même attendre d'abord de revoir avant de dire de prononcer. Parlons rapidement de James Rodriguez parce que c'est étonnant quand même de voir James Rodriguez à Everton. Quoi, les gars. C'est James, Everton, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là.
Pour moi, tout va bien. pour moi, ça reste un avis personnel, c'est que il a été quand même légèrement surcoté, quoi.
Surcoté, pourquoi tu dis ça?
On voit. Révèle au monde à une Coupe du Monde où il fait de bons matchs, où il porte son équipe. Mais derrière, qui entre dans cette catégorie top class player, qui n'a toujours pas atteint et qu'il arrive à Everton aujourd'hui, je pense que c'est le maximum qui puisse se permettre.
Tu ne penses pas que c'est le joueur qui a besoin d'amour, qui a besoin de se trouver dans certaines conditions, parce que ce soit à Porto, que ce soit après quand il vient en Europe, à Monaco ou à Montréal, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui, tu vois, quand il est voilà, dans un cocon, où il est aimé, où il a la confiance de son entraîneur qui lui donne les clés, il se sent plus épanoui et que voilà, tout le monde, on dit tout le monde va tout attendre ici au Real. Après, il n'a pas été si mauvais au Real, là, il est comme ça. Voilà. Dans la continuité, ça n'a pas été le James qu'on a vu, par exemple, dans la Coupe du Monde exceptionnelle. Parce qu'il faut le noter, un joueur qui fait 7 Coupes du Monde au plus haut niveau de football, de ce niveau, quand même, c'est un pédigré. Après, surcoté, je n'irai pas jusque-là, moi, perso.
Après, tu ne te mets pas dans ce métier-là pour aller chercher de l'affection. C'est un métier qui est très.
On sait tout ce qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'être. Voilà. C'est pour ça que Paris.
Je ne peux pas douter du talent de Rodriguez. Je ne peux pas douter du talent de Rodriguez.
Non, je ne doute pas de ton talent. Je dis juste que qu'il soit à Everton, ce n'est pas si choquant que ça. Parce qu'au-delà d'Everton, je ne vois pas quel top club, déjà en Angleterre, aurait voulu de lui. La preuve, il n'y en a eu aucun. Il y a eu qu'Everton est encore là. C'est parce que Ancelotti était là-bas, je pense. Il n'a pas encore franchi cette porte-là pour devenir un des joueurs les plus cotés ou alors un des joueurs incontestables. On a parlé de Thiago tout à l'heure. Autant l'arrivée de Thiago à Liverpool est très logique, autant l'arrivée de James à Everton est très logique aussi pour moi.
Tu ne l'aurais pas aimé à Chelsea?
Non.
Tu veux refuser James de gagner à Chelsea? Waouh. Je suis choqué. D'accord, je j'entends ton avis. Donc, je pense qu'on va passer sur la. On a parlé un peu de Everton et de la saison. Je pense que. Ah, d'ailleurs, je voulais vous poser une question sur l'attaquant du Everton dont on a parlé tout à l'heure. Déjà, on n'a pas parlé de l'arrivée d'Alan. Alan, c'est avec Naples, c'est l'un des meilleurs 6 d'Europe. Le projet Naples devait basculer parce qu'il y a eu l'arrivée de Lobotka, de Zielinski, de Elmas sur le terrain, voilà. Naples voulait passer dans autre chose parce que le milieu qu'on est de Naples a disparu, il reste Fabian Ruiz, Naples aujourd'hui, et ils ont amené que des jeux de Boca, Elmas, voilà. Ils sont passés sur autre chose. Et Alan Parmé, on parlait d'Alan l'année dernière au PSG à 90 millions. Il se retrouve à transfert de 20 millions à Everton. Je sais bien que c'est un joueur qui a connu un Chelsea, c'est principalement à cause de ça, mais encore lui, est-ce que vous, si vous ne trouvez pas que ça, c'est pas normal de voir Alan? Voilà.
Oui, je pense qu'avant l'arrivée de Gay, on parlait de lui au PSG.
Oui,
90 millions. Oui, 70-90. Donc, moi, je suis un peu surpris de le voir signer à Everton et aussi par le prix auquel il signe.
Oui, c'est quasiment à 25 millions.
Je pense que son niveau a certes diminué, mais rien n'explique qu'il passe de 64
millions à 25 millions. Moi, je pense que son niveau a diminué. Je pense que n'a pas fait une bonne saison.
La raison tient plus au nombre de problèmes qu'il a avec De Laurentiis. Mm. Le président l'a poussé à partir et le jeu prôné par Gattuso, je pense que ça ne lui convient pas aussi bien que celui de Ancelotti.
Mm.
Voilà. Je pense aussi que voilà, sous Sarri, il était excellent. Avec Gattuso, c'est pas du tout ça. Et voilà, maintenant, il le retrouve en Ancelotti.
D'accord. Landry, tu en penses quoi?
Moi, je pense que c'est Ancelotti qui explique ce transfert. Oui, je pense que c'est autant il explique celui de James, autant il explique celui d'Alan. Parce que c'est un joueur qui s'exprimait bien sous lui, qui comprenait bien sa manière de vouloir jouer
au football. Le logiciel Ancelotti.
Voilà, donc je pense qu'il le rejoint beaucoup plus pour des raisons de cœur que pour autre chose. Et c'est pas un si mauvais choix que ça. Aller à Everton aujourd'hui, c'est peut-être mieux que.
Oui, mais il était excellent sous Sarri à Naples. Donc je pense pas que ce soit plus Ancelotti qui soit la raison, mais plus les problèmes avec le jeu. Et le président, et voilà, il va chercher maintenant à se relancer.
Parce qu'il fait partie des joueurs qui avaient refusé de s'entraîner. Il y a eu un problème pendant la saison à Naples, là. Et le président avait tous interdit son entraînement. Il y avait le capitaine consigné, il y avait Alan qui faisait partie, et Koulibaly, il y avait trois qui faisaient partie des chefs de brigade, quoi, qui s'étaient mis du côté président. Donc, je pense que c'est un peu, voilà, tu n'as pas Arsène quand même pour être sûr. Moi, je pense que, voilà. Ça aussi fait partie de ce qui a amené Alan à partir. Je pense même que
moi, ce qui m'étonne, c'est le prix auquel il est parti. Peut-être.
Bah, moi, je pense que Laurentiis voulait vraiment se débarrasser de lui, quoi. Et voilà. Et
oui, je pense.
Comme c'est Ancelotti qui était de l'autre côté, ça s'est fait à la mienne.
Oui, c'est ça, je pense, oui, aussi.
D'accord. Bon, les gars, on a parlé de Everton, on est quasiment à la fin de l'émission. Je propose qu'on parle encore de clubs. Je vais vous dire, je vais vous donner chacun les clubs et vous allez me dire ce que vous en pensez. Arsène, je donne Brighton, Nando, je donne Crystal Palace. Et vous essayez de me dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des deux clubs. On rappelle que Brighton a gagné 3-0 samedi contre Newcastle, en dominant complètement son adversaire. Même si, bon, c'est pas compliqué de dominer Newcastle. Mais, et Palace, après avoir battu 1-0 Southampton à la première journée, aller battre Manchester United 3-1 à Old Trafford samedi. Chacun, vous avez. Commençons par Arsène. Parle-nous un peu de Brighton et de ce que tu aimes chez eux.
Oui, Brighton, il faut forcément souligner en premier le Tariq Lamptey, qui est, franchement, il est partout.
Je pense
Tariq Lamptey.
Pour l'une des victimes de Chelsea.
Ouais, je pense très sincèrement qu'il est un meilleur joueur que Reece James.
Oui, moi aussi.
Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense très sincèrement qu'il fait un très moi bon aussi. Début de saison. Le match contre Chelsea, je crois que c'était un accident, le fait qu'ils aient perdu parce qu'ils devaient gagner ce match. Ouais, juste que voilà, devant, ils ne permettaient pas. Neil Mopé aussi, il est bien, mais après, bon, c'est vrai
même
que c'est.
Même si tu n'aimes pas Neil Mopé parce que c'est passé l'année dernière avec ses
deux. Je me rappelle que
si tu m'envoies un club de Southampton, fuck Neil Mopé.
Je ne l'aime pas, mais là, soyons objectifs. C'est pas qu'il est parfait, c'est deux.
Mais c'est un très bon attaquant de première ligue. Hein. L'année dernière, mettre 11 buts à Brighton, il faut se mettre 11 buts.
C'est un très bon attaquant. Après, ces deux buts contre Newcastle, ils viennent coup sur coup, je crois. Il y a un peu de chance dedans quand même.
Non, le deuxième but est magnifique. Petit but pied gauche en rupture, oui, comme ça, il est magnifique.
Ça vient coup sur coup, je crois qu'ils ont sur. Notamment à cause de Tariq Lamptey.
Ouais, il fait un énorme but de match.
Sur le côté, il a surtout surpris Alain Saint-Maximin qui ne se retrouve pas dans le match. Après, il s'est blessé, il est sorti. Ouais. Voilà. Il fait une faute terrible sur le latéral. Ouais. Donc, je pense aussi qu'ils ont le mérite de relancer Lallana qui entre en jeu à la fin du match.
Il avait commencé la première journée, mais il s'était blessé.
Oui, il fait de très bonnes entrées. Après, voilà. Ouais, c'est une équipe qui ne va pas aller chercher une place dans le haut du tableau, mais elle va quand même causer du fil à retordre aux grosses équipes.
Je suis totalement d'accord.
Si Tariq Lamptey trouve un gros club l'année prochaine, pourquoi pas?
Et j'ajouterai même que l'idée de voir Graham Potter à la tête de cette équipe est à la base de tout ça, parce que Graham Potter, on l'a vu à Östersund dans son pays avec quand il allait quasiment se qualifier contre Manchester United en 8e d'Europa League il y a 2 ans. Et c'est quelqu'un qui prône le jeu. Il a cette idée de jeu-là, de toujours sortir avec le ballon, de toujours, voilà, essaye, il ne relance pas. Alors qu'il a derrière des défenseurs qui font quasiment 2 mètres, Dunk, Webster, Burn, les gars qui font quasiment 2 mètres, mais toujours l'idée de ressortir le ballon proprement. Parfois, ça lui coûte des buts bêtes, parfois, ça lui coûte des. Voilà. Je me rappelle, chaque fois que je joue contre Liverpool, Brighton, ils font des erreurs, ils nous ont des buts bêtes, mais ils ont toujours l'idée de jouer. Et voilà, ça marchera contre des équipes plus faibles. Donc, c'est vraiment crédit à donner à Graham Potter, à ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à Brighton. Crédit à le profil des joueurs qu'il prend. Parce que regarde les profils. Connolly, Mopé, Young Batch, Alzate. C'est tous des joueurs 1m70, 1m75, grand max, technique. Voilà. J'ai l'impression que tout le secteur offensif, c'est ça. Et derrière, tu as des grands. C'est bluffant. Personnellement,
c'est
ce que je pense de Brighton.
Oh, après, Graham Potter, je crois qu'il vient en 2019 à Brighton. Mmh. Je pense que là, maintenant, on voit le jeu qu'il veut leur faire jouer. Cette saison, on verra mieux, je pense, sa philosophie. Et j'espère que ça continuera d'être si plaisant que ce qu'on a pu voir jusque-là.
D'accord. Ok. Landry, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Crystal Palace?
Alors, en tant que supporter de Chelsea, je sais que c'est l'une des équipes qui nous a souvent posé beaucoup de problèmes. Mmh. Et vu le match qu'ils ont fait ce week-end contre Manchester United, je sens que ça va être encore une de ces saisons où cette équipe-là va toujours être très proche en termes de résultats des grandes équipes. Moi, il y a un joueur qui m'impressionne, c'est Wilfried Zaha, qui a pour moi la capacité de jouer facilement dans un autre club.
Bon, après, il a une irrégularité parfois qui gêne. Il ne stats pas aussi. Il ne stat pas, c'est son problème.
C'est vrai qu'il n'a pas de
très bon statistique. Il doit stater, il doit faire au moins, je sais pas, 7, 8, 9 buts, 9 passes, 8 buts, pour être plus en valeur avec un peu de recherche, c'est ça. C'est bien de dribbler, tout ça, mais si à la fin.
Oui, mais après, est-ce qu'il n'est pas un peu aussi à l'image de la qualité qu'il a autour?
Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux.
Parce que, à part Jordan Ayew qui arrive sur la vitesse, et là encore, il faut voir. À le suivre. Moi, je pense qu'il est un peu en avance par rapport à ses coéquipiers en termes de qualité, en termes de capacité. Mais c'est un joueur qui m'impressionne et c'est toujours intéressant de voir qu'il démarre la saison tout feu, tout flamme comme ça. Espérons qu'il n'y aura pas de blessure derrière parce que le projet de jeu semble être intéressant cette saison. Il semble pouvoir apporter un peu plus que d'habitude. Et s'ils arrivent à réaliser des prestations comme celles qu'ils ont fait contre United, qu'ils arrivent à le répéter une dizaine, une quinzaine de fois cette saison, ils peuvent aisément aller jouer les places européennes, l'Europa League, avec des Wolverhampton, Everton et autres, je pense.
D'accord, d'accord. Je vois ce que tu dis. Je vois ce que tu dis. Mais après, il faut oublier que sur le restart, ils perdent 8 matchs. Non, je crois qu'ils perdent 7 matchs de suite sur le restart. Ils gagnent que le premier contre Bournemouth. Après, ils perdent 7 matchs de suite. Bon, je ne sais pas si le restart, ils étaient déjà en vacances, comme ils savaient déjà qu'ils étaient quasiment maintenus. Donc bon, voilà, ils se sont laissés vraiment à la fin de saison. Là, ils reprennent avec voilà, du Palace qu'on connaît à un très, très bon niveau. C'est, moi, je ne vois pas aller chercher l'Europe parce que ça, je pense que ça va partir à la fin du mercato. Mais s'il ne part pas, je sais pas, je ne les vois quand même pas aller. Je pense qu'ils vont finir encore comme d'habitude entre la 10e et la 14e place, mais ce n'est pas une équipe qui va vous aider. Mais pour ce début de saison, moi, j'ai été bluffé par le match à Manu. Après, Manu n'était peut-être pas, voilà, c'était le premier match. C'était bluffant. Défensivement, il allait sortir de balle, Tamsen, Zaha. Et voilà, ils ont récupéré le petit Berichi Eze qui est techniquement très très fort. C'est vraiment beau à voir. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire, les gars, sur les deux derniers clubs dont on a parlé, Brighton et Crystal Palace.
Non, pas moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter.
Arsène?
Ouais. Non. Après, je crois, Roy Hilton, un coup de qualité. Mais après, ouais, je pense comme toi que c'est entre la 10e et la 14e. Ça ne sera pas plus que ça.
Ok, on est d'accord. Donc, les gars, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à dire ou avant qu'on conclue.
Oui, ben, les tops et les flops.
Oh, les tops et les flops, tu veux prendre les faces?
Oui, pourquoi pas. Je veux bien tacler mes adversaires pour
tant
que je mets l'occasion.
Ok, vas-y alors. T'as la parole?
Non, pour moi, clairement, le flop, pour moi, c'est pas Chelsea, là, oui, t'inquiète. C'est United. Déjà, leur mercato, Bale, pas Bale. Régulon, pas Régulon, qui d'autre? Ils ont juste acheté Van de Beek, qui est, bon, c'est un très bon joueur, mais après, je pense pas que cette saison pourront faire de grandes choses parce que, défensivement, déjà, Lindelof, c'est franchement pas ça. Maguire, actuellement, c'est pas ça aussi. Shaw, je sais pas, Fosu, Mensah, je ne crois pas non plus. Donc, je crois que ça sera compliqué pour eux cette saison d'aller loin. Après, un autre flop, Chelsea, je leur laisse encore du temps. On attend le groupe complet pour voir et un peu de temps. Côté top, je dirais Leeds. Très clairement, Leeds. Brighton me procure du plaisir. Everton, pas mal. Arsenal, bien sûr, très bon début de saison, même si le dernier match, c'était un peu calamiteux. Après, je pense que cette saison, quand même, augure de bonnes sensations. Un club qui sera dans le top 3, top 4, on n'attendait pas, peut-être, je pense, pourquoi pas. Et voilà, pour cette saison de PL sera très intéressante.
D'accord. C'est noté des top et des flops, Arsène. Landry, tu as des top et des flops à faire?
Ouais, j'ai un flop et j'ai, on va dire, un top. Mon flop, alors, pour moi, ça va être celle-ci. Parce que, au vu du recrutement qui a été fait, je pense que je n'étais pas le seul à imaginer, enfin, à espérer que cette équipe-là allait venir avec quelque chose de différent. Mais là, on s'est retrouvé en fait avec, on va dire, tout l'ensemble de Chelsea qu'on a eu la saison dernière, c'est-à-dire une équipe qui, par période, peut être très bonne et par période peut-être vraiment très avalé par l'adversaire. On l'a eu lors du premier match. Heureusement, ils s'en sortent grâce à, encore une fois, des individualités. Mais hier, il n'y a pas eu cette individualité-là qui sort et qui tienne le groupe. On se retrouve avec une équipe qui a finalement claqué de l'argent, qui a à sa tête un coach avec qui on ne peut plus être indulgent, mais qui ne semble pas avoir de projet de jeu en tant que tel finalement. On se retrouve alors avec un club qui a dépensé de l'argent et on ne sait pas c'est quoi l'objectif derrière tous ces recrutements. Personne ne peut dire aujourd'hui clairement quel est l'objectif de Chelsea, quel est l'objectif qui a été assigné à Frank Lampard. Est-ce qu'il doit aller chercher le titre? Est-ce qu'il doit aller gagner la Ligue des Champions? Personne ne le sait. Aujourd'hui, on a un Chelsea qui a moins d'objectifs en fait qu'une équipe comme le PSG. Et ça n'augure pas de très bonnes choses. En fait, le feeling que j'ai là, tout de suite, peut-être que ça ressort du match d'hier, mais le feeling n'est pas très, très prometteur, n'est pas très réjouissant, en fait. Et pour moi, c'est déjà un flop qu'au bout de deux matchs, même si on a eu un match direct contre Liverpool, qu'on se retrouve déjà à trois points d'équipes comme Arsenal, d'équipes comme Liverpool, qui doivent être... Pour nous, je veux dire,
c'est un crime de se retrouver à trois points d'Arsenal. Un crime.
Après deux journées, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Arsenal a réussi à toucher une amélioration que nous, on n'a pas. Arsenal a réussi à rassembler une énergie aujourd'hui que Chelsea n'arrive pas à
trouver.
Ils n'ont pas eu besoin de 223 millions pour ça. Ils n'ont pas eu besoin de 223 millions pour ça.
C'est pas faux.
Et après, côté top,
avec le temps et avec les nouvelles recrues qu'elles viendront, peut-être qu'il y aura une amélioration.
Alors, ces recrues, moi, je me demande si à un moment de la saison, on aura tout le monde, en fait.
Oui, parce que hier, c'est la capacité que vous avez à recruter des joueurs qui sont des connus au banc des blessés. Parce que ce soit Silva, ou c'est des joueurs qu'on sait qui, voilà, ils sont sujets à se blesser souvent. Donc, et vous les recrutez, c'est quand même, ça pose beaucoup de questions.
Après, côté top, c'est sur un match d'hier, c'est Tottenham et cette paire d'attaquants qu'ils ont, Son et... C'est vraiment impressionnant. Mm-hmm. C'est impressionnant ce qu'ils nous ont fait hier. Ouais. Quatre passes décisives ou quatre buts du même joueur. Et derrière, il arrive à en marquer un quand même. C'est très beau. Ce serait très beau si ces deux joueurs-là pouvaient garder une telle dynamique sur une certaine durée. C'est très beau aussi, côté affection, de voir revenir au club un garçon comme Gareth Bale qui a quand même traversé des galères ces deux dernières saisons. Espérons qu'il puisse positivement impacter cette équipe et qu'il puisse leur permettre de donner un peu de rendement. Parce que c'est dommage d'être le seul club à Londres qui depuis plusieurs années n'a rien soulevé comme trophée. Quoi.
The Pride of London, Chelsea.
Ouais, oui, j'aurais pu dire Tottenham aussi, ça m'a échappé. Et j'aurais voulu aussi ajouter que Leeds, quand même, Bielsa, défensivement, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que
non, je pense pas que ça va donner quelque chose. Je pense que Leeds va être en bonne journée comme ça.
C'est chaud, ils ne peuvent pas toujours compter sur l'équipe qui marque le plus, franchement.
Apparemment, il jouera les 3-8 journées comme ça. C'est bien ça. Il restera fou comme ça.
Deux journées, 7 buts marqués, 7 buts encaissés, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Attention. Et après, voilà. Ça, il veut mourir et périr, pas ses idées.
Voilà. Et il mourra très bientôt. Son truc là, son arnaque là qu'il tient là, ça n'ira pas loin longtemps.
Non, là, non, ça va pas. Je ne suis pas d'accord sur le mot arnaque de Bielsa parce que Bielsa, c'est le parrain, c'est un génie. Je ne suis pas d'accord. Mais bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. On aura peut-être pour parler de ça. On va en parler dans la prochaine émission qu'on va faire, ne t'en fais pas. On pourra débattre sur ça.
Ok,
Donc, ok, les gars, vous avez fait vos top ou vos flops. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Pour le moment, mes top, c'est Liverpool. Je suis content. bon début de saison. Ce que je voulais voir, concentrer, appliquer, demain, deux victoires, on continue sur notre lancée. L'objectif, c'est de faire autant mieux que la semaine dernière. Si on peut faire gagner les 38 matchs, il faut gagner les 38. Dominer. Moi, je veux qu'on domine. Je ne veux pas qu'on laisse de l'espoir. J'ai envie qu'on passe comme l'année dernière. On creuse les carnes. Voilà. Prochain match, samedi, contre Arsenal. On tape Arsenal. On leur montre aussi que voilà, il n'y a pas d'espoir. Voilà. Et ensuite, on a un enchaînement pendant 4 journées. L'équipe, on a West Brom, Fulham, Villa. Et l'équipe, voilà. C'est parfait. Quoi. Si tu bats Arsenal, si tu as 4 matchs où tu peux faire 12 points. Il faut faire ça. Donc, moi, je suis content de ce début de saison.
Déjà, il faut battre Arsenal.
Bon, rendez-vous le dimanche prochain, on verra. On aura le temps d'en parler. J'ai confiance 48 dans ma boîte. On verra. mon flop, ce sera West Ham. J'en ai déjà parlé. On a fait une émission, on parlait des transferts et la gestion des clubs. Je ne sais pas si Landry se rappelle, j'avais terminé Madame Brady qui était à la tête de West Ham. Et ça n'en devait pas vraiment. C'est une déception de voir ce club. Je ne sais pas. J'espère que moi, il m'a réussi à la maintenir pour cette saison, mais c'est mal parti. Je ne sais pas. C'est une équipe que j'aimerais tellement voir plus haut, voir voilà, au moins au niveau des clubs comme Crystal Palace, dans la 10e, 11e place. Voilà, mais c'est encore une déception. Le premier match contre qui peut contre Newcastle, c'est pas du football, c'est du n'importe quoi. Ils se font dominer, que ce soit dans la possession, dans les idées de jeu, par une équipe qui est minimaliste. Je me pose beaucoup de questions sur la saison de West Ham. Pour le moment, c'est mon flop de la saison. Donc voilà. Les gars, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire.
Non, c'est tout bon. Pour deux journées, je pense qu'on est large.
D'accord. Landry, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent.
Alors, un dernier mot, ce serait, encore une fois, on est content que le football reprenne, le football anglais particulièrement. Et de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est une saison qui promet, déjà en termes de buts, mais aussi qui promet d'avoir des duels intéressants. C'est toujours partagé quelques moments avec les gars. Et j'espère qu'on en aura beaucoup d'autres et qu'on parlera de Chelsea dans de meilleurs termes dans les prochains
jours. Plaisir partagé, l'anglais. Les gars, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent ont apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écouterez le podcast. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.
Je m'énerve parce que moi, j'ai été touché. Et ce que je sors aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai depuis 10 ans au fond de moi. C'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui ont souffert. Hein? Parce que vous avez des enfants, vous devez avoir des enfants. Et qu'un jour on touche à vos enfants et qu'on vient de faire ce qu'on
Mais c'est
fait
bien, Rick, c'est bien, Rick, ce que
et,
vous
Et vous verrez comment ça,
ouais, comme ça. C'est bien, ça parce que ça sort.
Alors c'est pour ça que je le sors.
Ça sort. Ouais,
parce que je continue à dire que je leur pisse. Au cul.
Et ça, c'est pas une insulte.
C'est une grosse insulte. Si on a mis de prendre ça comme une insulte, je n'en ai rien à foutre.